I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, le podcast qui s'intéresse à la sexualité et la société. Je suis Anne-Laetitia Béraud, journaliste, et dans cet épisode, on s'intéresse à la sexualité des femmes de plus de 50 ans. Car oui, les femmes ménopausées qui n'ont plus de règles vivent, aiment et coïtent. Une pratique du sexe qualifiée d'ultime tabou par Marie Charelle, journaliste au Monde, romancière, autrice de « Qui a peur des vieilles ?», un essai publié au Livre de Poche. Marie Charelle est l'invitée de cet épisode. Première question, quelle est la thèse de cet essai ?
Qui a peur des vieilles ? La question se pose d'abord à tous. Et l'idée qu'il y a derrière cet ouvrage, c'est pourquoi aujourd'hui, prenons un exemple des jeunes femmes. Des jeunes femmes ont peur de vieillir, ont peur des rides. Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que c'est juste le marketing des maisons de crème anti-rides derrière tout ça ? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Qu'est-ce que ça dit de nos normes ? Pourquoi notre société a peur des vieilles femmes alors que nous sommes des sociétés de vieux et de vieilles de plus en plus ?
Parce que vous rappelez que 40% de la population française a plus de 50 ans, ce qui représente 14 millions de femmes. Et le sous-titre de votre ouvrage, « Qui a peur des vieilles ?», c'est « Essai sur l'invisibilisation des femmes ».
Oui, on ne les voit plus, entre guillemets, parce qu'évidemment on les voit, mais on leur prête moins d'attention. Leur parole compte moins et moins valorisée. Elles existent moins dans le regard social, alors que dans les faits, elles sont très importantes. C'est des pans entiers de la société. Prenons les associations, les médiathèques, n'existent et ne vivent que grâce à elles, sans parler de leur place dans les familles. Donc il y a cette espèce de paradoxe de nos sociétés grisonnantes qui refusent de se voir telles qu'elles sont et qui sont obsédées par les corps jeunes, retouchés évidemment avec l'IA, mais qui ne correspond absolument pas à ce que nous sommes et ce que nous devenons.
Les femmes vieilles ne sont plus physiologiquement fertiles. Elles sont ménopausées, elles n'ont plus de menstruation, de règles. Dans de nombreuses cultures, l'entrée dans l'âge adulte et dans la féminité, c'est le début des menstruations. Alors que devient la femme quand elle devient ménopausée ?
Il y a longtemps eu l'idée que la valeur d'une femme dans la société, c'est le fait de pouvoir faire des enfants, de procréer. Donc quand elle ne procrée plus, entre guillemets, elle a perdu cette fonction sociale-là. Moi, quand j'ai commencé à l'enquête, je me suis dit, mais ça, c'était vrai il y a longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Et ben, en fait, ça traîne encore dans les représentations. C'est très, très long à changer. C'est ce qu'explique Mona Chollet dans Les Sorcières.
Vous qualifiez la sexualité des femmes de plus de 50 ans d'ultime tabou. Pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur la représentation de l'âge des femmes, mais là, on en revient encore aux sorcières de Mona Chollet. C'est-à-dire une femme qui n'est plus fertile. A priori, il n'a plus de raison d'avoir des rapports sexuels, si on prend vraiment cette vision utilitariste du corps de la femme. Or, elle continue. Donc avant, c'était la sorcière qui continuait à avoir des relations, c'est forcément parce qu'elle était possédée par le diable. Donc il y a cette idée, encore une fois, qui traîne dans nos représentations, de quelque chose de contre-nature, de continuer à avoir des relations, du plaisir, du désir, pour non pas pour faire des enfants, mais pour soi-même. Il y a quelque chose de rebelles, finalement, de contre les normes. Et il y a encore de ça aujourd'hui, et puis il y a tout le reste sur la vision du couple, la vision de l'usure du désir qu'on fait beaucoup porter aux femmes, les femmes qui voudraient plus, etc. Donc il y a aussi tout ça qui explique que on ne la voit pas vraiment, la sexualité des femmes de plus de 50 ans et encore plus des plus âgées. Ça commence un peu à changer, il y a certains films qui le parlent, mais c'est encore vu comme quelque chose d'explosif, de très très rare et de pas du tout banal. Alors que ça devrait être banal, puisque c'est ce que vivent des milliers de personnes aujourd'hui. Et pourtant, voilà, on reste encore sur la vision d'une sexualité de corps jeune et beau.
Parmi vos intervenants cités dans votre essai, les plus jeunes trouvent que les vieux qui ont une sexualité active sont égoïstes, voire pervers.
C'est ça, puisque ce n'est plus des relations qui ont pour but d'avoir des enfants.
alors que les jeunes font tout autant l'amour sans volonté de procréer.
Exactement. Et ce que je disais sur ces représentations un peu archaïques qu'il y a derrière toutes ces choses-là, c'est pour ça qu'il faut en parler et démystifier, dire « attendez, ça n'a plus aucun sens d'avoir cette vision de la sexualité ». Je crois qu'il faut distinguer aussi, évidemment, quand on dit « femme de plus de 50 ans », et la sexualité des très très âgés. Et là, on rentre dans un sujet qui est un peu différent, qui est celui des personnes âgées ou très âgées, qui peuvent être en institution éventuellement. Et là, c'est vu comme quelque chose de... On entre carrément dans quelque chose d'infantilisant. Ah ben, ils ont plus l'âge, quoi. Donc c'est quelque chose de pervers, et c'est pas normal. Eh bien si, ce sont encore des corps vivants. Donc jusqu'à la fin, évidemment, un corps vit et a besoin de plaisir et de relations, quelle que soit la forme. Mais il y a cette vision-là aussi de infantilisante qu'on a de la vieillesse, qu'on veut pas voir. Et là, on parle de la grande vieillesse, puisqu'on la cache dans des institutions. Donc c'est pareil sur cette sexualité qu'on ne veut pas voir des très vieux.
On avait reçu dans Tout s'explique Véronique Caillado, chercheuse spécialisée dans les questions de vieillesse, qui expliquait qu'il y a de la sexualité dans les EHPAD, les résidences seniors, parce que c'est un lieu de rencontre. Reprenons sur les représentations, le discours sur le vieillissement, sur les règles, la grossesse, la ménopause, ils ont évolué, poussés par des mouvements féministes contemporains. Comment percevez-vous ces discours ?
C'est vrai qu'il y a tout un mouvement de pensée, je pense à Camille Froide-Vrometteri par exemple, qui parle du corps féminin et qui essaye de le réinvestir avec une lecture féministe en disant que le corps doit aussi être un objet de pensée, ce qui n'a longtemps pas été. Il faut aussi parler du corps vieillissant des femmes et de tout ce que ça veut dire dans la diversité des expériences sexuelles, bien sûr, de redécouverte parfois d'autres formes de sexualité. Ça m'a vraiment intéressé aussi d'entendre toute cette variété. Oui, parfois, il n'y a plus de sexualité ou il n'y a plus de désir. Parfois, il y a de nouvelles formes. Parfois, certaines femmes se sentent plus libres d'essayer des choses qu'elles ne faisaient pas avant parce qu'elles avaient une vie contrainte de boulot, d'enfant, de vie de famille, de mille et une choses à faire. Et puis, parfois, l'âge venant, elles s'autorisent plus de choses. C'est intéressant de parler de ça, je trouve. Et l'idée qu'il y avait derrière ce livre, c'était de dire « Hey, la vie ne s'arrête pas ni à 50 ans, ni à 40 ans, comme on dit en entreprise pour les seniors à 45 ans. Mais il y a beaucoup d'expériences possibles et de diversité possible des vécus. Et parfois, des formes de libération. » Je crois que c'est aussi important de dire aux jeunes femmes qu'il se passe beaucoup de choses passionnantes quand on vieillit. Et c'est pas la fin. Et la valeur des femmes et des corps ne diminue pas quand on vieillit. Ce qui est un peu l'idée qui repose sur le corps des femmes. Les hommes grisonnent, deviennent plus beaux et les femmes perdent en beauté. Il y a encore aussi ça qui est dans nos normes. Il faut lutter contre ça, je crois.
Dans votre essai, vous soulignez que le couple formé par Emmanuel et Brigitte Macron reste encore aujourd'hui subversif.
Oui, il y a une collègue, Sylvie Baumel, a écrit un livre sur Brigitte et elle évoque ça. Elle dit « c'est vrai que c'est quand même pas rien, un couple avec une telle différence d'âge dans ce sens-là ». Il y a quelque chose de subversif dans ça. Ça peut-être faire bouger les lignes parce que c'est devenu banal. On voit Brigitte Macron et son époux, ça ne choque plus et c'est bien. Et plus il y aura aussi des modèles dans ce sens-là, ça change un peu de l'éternel sexagénaire avec une vingtenaire qu'on voit encore beaucoup et ça reste un peu la norme. Donc plus il y en aura dans l'autre sens et plus là aussi ça fera un peu bouger les lignes.
Cette invisibilisation des vieilles femmes, ça peut être aussi une liberté.
Cette invisibilisation, certaines disent « je suis tranquille, en fait ça me va très bien parce que j'emmerde le monde et je me sens plus libre qu'avant, il y a moins de regard social, il y a moins le regard des hommes ». Donc il y a une grande diversité de vécu et chaque femme s'en accommode et c'est aussi important de le dire aux jeunes femmes. Voilà, chacune fait son chemin, on ne disparaît pas et puis on choisit et on apprend. Et beaucoup de femmes disent se sentir plus fortes, plus sûres d'elles. Elles ont fait leurs preuves, elles n'ont plus rien à prouver et elles éprouvent une forme de liberté qui, moi, en tout cas, me donne envie. J'ai envie de ressentir ça. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me sens aussi capable de dire « je vous emmerde » comme Brigitte Fontaine.
Pour continuer sur ce thème, je vous invite à retrouver les ouvrages des autrices Camille Froide-Vrometteri, Mona Chollet, Cécile Charlap, Sophie Fontanelle. Vous retrouverez aussi des articles et des interviews sur 20minutes.fr. Merci à Marie Charelle pour cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode et Tout s'explique, en général, n'hésitez pas à nous laisser la note maximale sur Apple Podcast, sur Spotify en particulier. C'est bon pour le référencement. Tout s'explique aux manettes à Laetitia Béraud pour m'écrire audio@20minutes.fr. Et pour vous abonner, visez la page Les podcasts de 20 minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.